Europe 1.
16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes à Paris en mai 1882, au 27 de l'avenue de Friedland. Ce soir-là, un balai incessant de fiacres dépose des invités triés sur le volet devant les portes monumentales de l'hôtel Potocki. Sur le perron, la comtesse Emmanuela Potocka accueille ses convives. La maîtresse des lieux, une galatée brune, au regard ensorcelant, a revêtu une robe de satin brodée de fil d'or. Aux financiers, aristocrates et autres artistes qui découvrent sa demeure, elle promet une réception mémorable. C'est Nicolas Potocki, le richissime époux d'Emmanuela, qui a fait construire cet immense hôtel particulier dans lequel le couple vient de poser ses valises. Et le couple compte bien pendre la crémaillère comme il se doit. C'est madame qui a choisi le thème de la soirée, une fête au temps du roi soleil. Et comme les travaux d'aménagement du palais ne sont pas tout à fait achevés, la soirée a lieu dans les écuries attenantes. Au milieu des 18 pur sang du comte Nicolas, une armée de valets aux perruques poudrées servent aux convives des mets des plus raffinés. On se délecte de cet incroyable caviar que les hôtes ont fait venir de la Volga. On s'enivre d'une vodka distillée dans les terres natales du comte. On rit aux facéties de la comtesse. La fête bat son plein jusqu'au premier rayon du soleil levant. Et dès le lendemain, tous les journaux relatent cette incroyable soirée. Les Potocki ont annoncé la couleur. Cette soirée inaugurale n'était que la première d'une succession de réceptions plus grandioses les unes que les autres. En fait, les Potocki sont des figures très en vogue de la jet-set parisienne, version belle époque, à l'heure où le mot jet-set n'existe pas encore. Il faut dire qu'ils sont immensément riches. On murmure dans les salons que la fortune de Nicolas s'élève à 95 millions de francs, une coquette somme héritée de son père, un mania venu de Pologne. Le couple est de toutes les réunions mondaines. Si Nicolas est plutôt course hippique et partie de chasse, la comtesse Emmanuela, 30 ans, apparaît aux ventes de charité, aux expositions, à la Sorbonne, dans les salons, chez la cousine de Napoléon III, la princesse Mathilde. Chaque jour, dans la presse, on lit un commentaire élogieux sur la grâce florentine et l'élégance parisienne de la belle italienne. Scandaleuse à souhait, la comtesse Potocka ne rate jamais une occasion de se distinguer et s'illustre bientôt en fondant un club tout à fait singulier. Les clubs mondains sont très à la mode sous la Troisième République. Ce sont des réunions privées durant lesquelles on s'adonne à toutes sortes de rituels insolites et surtout où l'on transgresse les codes de la bonne morale. Emmanuela se lance sans hésiter dans l'aventure. Mais attention, la comtesse n'ouvrira pas ses portes à n'importe qui. La première condition pour intégrer son cercle, c'est d'être un homme. La seconde, et non des moindres, c'est d'être prêt à mourir pour elle. Et nombreux sont ceux qui ont succombé au charme d'Emmanuela. Parmi ces soupirants, on retrouve l'académicien Caro, le peintre Jacques-Émile Blanche, l'historien Gustave Schlumberger, des députés, des conseillers, des financiers, bref, la crème de la crème parisienne. Au cours des soirées du club, on retrouvera Marcel Proust et même un certain Guy de Maupassant qu'elle va inspirer pour certains de ses écrits, et qui est pour elle quelqu'un d'important aussi. Si leur amitié est forte autour de la comtesse, les hommes n'ont qu'un rêve, celui de séduire la belle. Emmanuela Potocka a tout de suite trouvé le nom qu'elle donnerait à ses adorateurs. Ils constitueront le club des Maccabées. Des hommes un peu grisonnants, plutôt jeunes, mais surtout des hommes prêts à se donner la mort pour les beaux yeux de la comtesse. Leur devise, à la vie, à la mort. La récompense à leur dévotion, un magnifique insigne offert par la comtesse. Les amoureux transis pourront arborer fièrement un médaillon sur lequel Emmanuela a fait graver son prénom et le titre de « Grand Maccabée ». Une fois par semaine, elle leur ouvre les portes de l'hôtel Potocki après les avoir convoqués via des missives tantôt despotiques. « Il faut que vous veniez demain, j'y compte, je le veux, je l'ordonne », signé la patronne. Tantôt mielleuse, « Amour, n'oubliez pas que les Maccabées se réunissent demain, à vous de cœur ». Évidemment, tous exécutent sans broncher les ordres de celle qu'ils surnomment leur sirène. Vendredi soir, l'horloge sonne 7h30. Emmanuela Potocka accueille ses prétendants en leur tendant une main gantée. Elle porte une longue robe en dentelle noire surmontée d'un boa argenté. La femme fatale enivre ses convives avec son parfum aux notes marines signées Guerlain. Le rituel est immuable. D'abord, les membres de ce club très privé, souvent déguisés, passent à table. Des laquais impassibles servent des mets délicats dans une vaisselle en vermeil. On boit les meilleures liqueurs dans des verres de cristal, on parle littérature, culture et politique. Puis enfin, on se rend au salon. C'est là que la soirée commence vraiment. Emanuela, telle une reine sur son trône, prend place sur son fauteuil. À côté d'elle, un étrange objet est posé sur un petit guéridon. C'est un knout, un fouet donc. Il est en argent massif, incrusté de pierres précieuses. Un objet de torture pour soumettre ses adorateurs. Eh bien, c'est un secret qui n'est jamais sorti du salon de la comtesse. Les activités des Maccabées et leur patronne varient, mais il y a un jeu étrange qui fait rire la comtesse aux éclats. Elle l'a appelé le jeu de la morgue. Pour s'y adonner, rien de plus simple. Il suffit de s'allonger sur le tapis, les yeux clos et le corps immobile, pour mimer un mort d'amour. Et si la comtesse voit une poitrine se gonfler d'air, gare au cou de Knut. Décidément, ce jeu, elle l'adore. Dans un registre moins macabre, il y a aussi le jeu des mouchoirs. Un convive se trouve au milieu des autres qui forment un cercle et se lancent un mouchoir. Le but du jeu, c'est que la personne au centre parvienne à attraper le morceau de tissu. Cela paraît bien innocent. Mais imaginez que tout ce beau monde est imbibé d'alcool et n'a pas lésiné sur les cigarettes d'opium. Le spectacle est assez grotesque. Mais alors que la soirée s'achève, quel soupirant obtiendra les faveurs de la comtesse. Alors qu'ils titubent jusqu'à leurs carrosses respectifs, la comtesse se trouve bien seule dans son immense cage dorée parisienne. Ce soir-là, comme les autres, aucun de ses soupirants ne gagnera sa chambre. Tout cela, Mathieu, n'est qu'un jeu. En fait, avec ses Maccabées, Emanuela se sent simplement désirée. Car, il faut bien le dire, il y a de l'eau dans le gaz avec son mari. Nicolas ne la regarde plus depuis des mois. Il fustige les dépenses de sa femme, ne supporte plus son côté insolent. Il n'a Dieu que pour ses chevaux et se fait la malle dès qu'il le peut. Alors grâce à ses chers Bois-Bois ou Manounou, elle a affublé ses Maccabées de surnoms farfelus, Emanuela échappe à la réalité de ce mariage en plein naufrage. Mais elle mène ses pauvres hommes à la baguette, se fichant bien de blesser leur amour-propre. Hors de question pour elle d'accueillir quelqu'un dans son lit. Celui qui prendra le chemin de ses appartements se verra barrer l'entrée par une armée de chiens qui montent la garde. En tête à tête avec la déesse de la nuit peinte sur le plafond de sa chambre, la comtesse songe aux jours à venir. Bientôt, elle le sait, la séparation des époux sera actée et elle devra quitter pour toujours l'hôtel Potoski. En décembre 1887, Emanuela fait ses valises pour s'installer avec sa mère rue de Châteaubriand. Ici, le salon est étroit et n'a pas le faste de l'ancien. Tant pis, ça fera l'affaire. C'est décidé. Le tout Paris connaîtra cette adresse. Emanuela installe des chaises Louis XIV, des meubles de marqueterie, un grand piano sur lequel ses doigts glissent pour le plus grand bonheur de ses invités. Mais les mois passent et le moral de la comtesse n'est pas au beau fixe. L'ennui la gagne et les excentricités ne l'animent plus. Quand elle entend les roues d'un carrosse qui annoncent une visite, elle se fait passer pour absente. Chaque jour, elle ouvre un journal et constate que son nom n'y apparaît presque plus. Cette fois-ci, c'est certain, la fête est bel et bien finie. Mais la comtesse Emanuela Potocka, si baroque, si fantasque et si belle, restera pour toujours une égérie de la belle époque.
Europe 1, historiquement vôtre.